We're getting ready to win this election.
We believe we're on track to win this election.
We won't know who wins until all the votes are counted.
France Inter, le 18-20.
Comme un sentiment de déjà-vu, en anglais dans le texte, cette élection qui se termine sans vainqueur, avec des doutes, des batailles juridiques en perspective, ce sera peut-être certainement bien moins long qu'en 2000, on y viendra, mais sur 50 États, il en reste 7 en réalité, mais enfin 5 réellement qui peuvent faire la différence. On parle du Nevada, de l'Arizona, de la Géorgie, on parle surtout de cette Pennsylvanie, de ce Michigan, de ce Wisconsin. C'est là que les choses vont se nouer. On sait qu'on aura des nouvelles quasi officielles du Wisconsin probablement dans les minutes qui viennent, qui semblent, c'est ce que nous disait Grégory Phillips tout à l'heure, gagner pour Biden à 700 voix. On y viendra, mais cette élection nous dit tellement d'autres choses. Elle parle de démocrates qui n'ont pas regagné des terres perdues de 2016 aussi facilement qu'il l'espérait. Elle parle d'un homme, Donald Trump, qui a trouvé une place politique dans ce pays. Elle parle d'une institution, la justice, qui prendra peut-être le relais et devra être à la hauteur. Nous y venons avec nos invités, avec Anne Desine qui est là, avec Douglas Kennedy aussi, que nous aurons au téléphone. Nous irons aussi chez les démocrates à la gueule de bois avec Benjamin Ely qui leur a tendu son micro. Amélie Perrier est bien là sous les radars parce qu'il y a aussi eu des élections qui ont fonctionné hier soir aux États-Unis. Et puis le monde d'après, c'est Jean-Marc Four, précisément sur ce que dit ce pays quand c'est la justice qui doit prendre la main. L'Amérique est complexe, c'est pour ça qu'on l'aime. Bonsoir.
Fabien Saint-Pès, Un jour dans le monde, spécial élection américaine.
Bonjour Anne Desine.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du droit américain, de ce pays au sens large. Vous connaissez les rouages juridiques de ce pays. Ça va nous être plus précieux même que à d'autres moments encore ce soir. Avant de démêler tout ça avec vous, j'aimerais qu'on accueille avec nous Douglas Kennedy. Bonsoir, monsieur Kennedy.
Bonsoir.
L'écrivain que l'on connaît bien sûr.
Une soirée intéressante.
Comme vous dites, Douglas Kennedy, justement, puisque la soirée a été si passionnante, moi j'aimerais savoir que si à cette heure-ci, une fois digérée cette nuit électorale, vous êtes dans quel état ?
Ce matin, en fait, c'était impossible de dormir. Et ce matin, à 5 heures, je me suis levé, j'ai regardé le résultat, j'ai pensé où est la bouteille de whisky. peut-être où est deux bouteilles de whisky. Mais petit à petit, en fait, tout a commencé de changer. Pourquoi, en fait, c'est le système des gens qui ont voté comme moi en avance ou par correspondance. Et typiquement, au début, aux États-Unis, c'est des gens qui ont voté à la journée de l'élection qui sont comptés au début. Et cette année, 100 millions de votes étaient faits en avance de l'élection. Mm-hmm. Donc, petit à petit, en fait, tout a changé dans certains États cruciaux.
Alors,
la vérité pour moi, Trump est un monstre. Ok, c'est une disgrâce. Et le fait que c'est si serré, ça c'est quelque chose de très difficile de faire face pour beaucoup d'Américains.
Alors, je comprends.
Mais la vérité est, on est un pays très divisé, et il y a des gens là-bas qui adorent Trump, même si pour des gens comme moi. Le mec, c'est notre Mussolini.
Mais Douglas Kennedy, ce qu'on retient aussi de cette soirée, et au fond, quel que soit le résultat, même si ça tourne en votre faveur pour les démocrates, on a l'impression qu'on a une fois encore mal lu le peuple américain et ses intentions, et même mal lu qui était ce personnage Donald Trump et ce qu'il incarne désormais, au-delà même de sa personnalité à lui.
Oui et non. Je pense que le Parti démocrate a mal lu, en fait, beaucoup de gens, en fait, dans l'Amérique profonde. J'ai écrit à ce sujet dans beaucoup d'essais. Le fait, en fait, depuis, en fait, 68, avec l'élection de Nixon, Nixon a divisé le pays. Il a créé une guerre culturelle. Nous contre eux. Et eux, c'est les élites de côté, des intellectuels. Franchement, en fait, des gens, en fait, de la Californie, de New York, en fait, des grandes universités. Mais Trump, franchement, en fait, 2016, c'était le choc de ma vie, c'était vertigineux. Et tout le monde a pensé, ok, c'était une réaction, en fait, la dernière minute du pouvoir des hommes blancs. La vérité, on voit dans cette élection, il y a un Amérique profonde avec des valeurs complètement différentes que les deux côtes. Et maintenant, en fait, la grande question est, quel est le destin de ce pays très divisé, avec deux points de vue au sujet des États-Unis complètement différents. Et pour moi, ça c'est romanesque.
Et alors, justement, oui, vous vivez, vous, entre la France et les États-Unis, Douglas Kennedy, quand vous y êtes, vous passez du temps, notamment sur la côte Est, et notamment dans le Maine, un État qui est traditionnellement démocrate, mais qui se tient très éloigné des querelles, c'est l'une de ses spécificités, c'est l'un de ces États où on sait travailler d'une rive à l'autre, des démocrates aux républicains, on l'a toujours fait. Est-ce que vous avez le sentiment que ce modèle, qui est le modèle du consensus, et qui était au fond celui sur lequel était basée la démocratie, américaine, ce modèle a disparu.
Ah, tout à fait, mais aussi, en fait, un des problèmes, franchement, avec le système, en fait, c'est les lois et aussi une forme de gouvernement qui était créée il y a, en fait, presque 300 ans, en fait, 220 ans. Mm-hmm. Et le truc maintenant, en fait, le Sénat, par exemple, le chef du Sénat, Mitch McConnell, qui était un homme d'extrême droite et aussi un connard total, un homme odieux. Mais en fait, ça c'est une petite digression. McConnell, il est en fait le sénateur du Kentucky. Ça c'est un État avec 4 500 000 habitants, qui est fabriqué dans le Kentucky, en fait, des chevaux, et aussi le bourbon. J'aime le bourbon. Et donc, j'aime le Kentucky. Mais McConnell, il a un pouvoir plus grand que Dianne Feinstein, qui est le sénateur pour le Californie, en fait. Et le Californie, c'est une population de 45 millions, et avec une économie, en fait, immense, avec la quatrième économie la plus grande du monde. Mais selon ce système, en fait, McConnell a un pouvoir extraordinaire. Ça doit changer. Mais ça sera très difficile de changer. Le fait que le Court suprême, en fait, aussi, en fait, a un pouvoir absolu. Maintenant, avec une majorité de juges conservateurs, en fait, la nouvelle juge, Madame Coney Barrett, est hyper conservatrice, hyper catho. Mon nom est Kennedy, je ne suis pas contre des gens catho, mais la séparation entre l'Église et l'État, ça, c'est en fait primordial dans notre système.
Douglas Kennedy.
En fait, oui, l'avortement va disparaître. Et peut-être, en fait, le droit de la contraception, si ça va continuer comme ça.
Douglas Kennedy, comment expliquez-vous que ces États qui étaient jusque-là, qui sont restés très longtemps des États traditionnellement démocrates, dans le Nord-Est, justement, ceux qui se disputent aujourd'hui, Wisconsin, Pennsylvanie, Michigan, ne soient pas rentrés dans leur rang avec facilité, parce que peut-être qu'on verra au fil de la nuit, la soirée, demain matin, que les choses redeviennent bleues, mais allez savoir. Moi, j'aimerais savoir ce que vous dites, vous, à des gens du Wisconsin, ou de Pennsylvanie qui ont voté pour Trump, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous êtes prêt aussi à entendre pourquoi ils ont voté pour Donald Trump?
Je pense que, honnêtement, et peut-être je vais dire quelque chose très de côte l'Est, mais c'est l'éducation. Depuis 40 ans, depuis l'époque de Reagan, en fait, le Parti républicain a franchement, en fait, a évité, en fait, l'éducation, et ils ont, en fait, il n'a pas très bien subventionné l'éducation. Et aussi, en fait, le pouvoir des néo-chrétiennes a augmenté depuis 40 ans aussi. Pendant mon enfance, le Parti républicain, c'était un parti, en fait, avec un point de vue très libertin au sujet du sexe. Mais, en fait, quand Lyndon Johnson a signé, en fait, des lois pour des droits des Africains-Américains, il a perdu le sud des États-Unis, qui était traditionnellement démocrate. Pourquoi? Lincoln était du Parti républicain. Donc ça, c'était la guerre de la sécession. Et j'ai écrit quelque chose récemment pour Libération, au sujet du fait qu'on est maintenant au milieu d'une deuxième guerre de la sécession. Mm-hmm. Et c'est passionnant, en fait, parce que de plus en plus, je pense, mon Dieu, on est deux pays complètement différents. Mm-hmm. Et si Biden va gagner, et maintenant, en fait, je pense que c'est possible, hein, il y a deux heures, j'ai pensé des autres choses, j'ai pensé, ok, je vais vivre où maintenant? mais si ça va arriver, le fait est, il y a deux Amériques et on déteste l'autre.
Alors oui, ce sera ma dernière question et c'est là où j'allais vous emmener, Douglas Kennedy. Si demain Biden est bien le président des États-Unis, a-t-il les épaules pour remplacer ces Américains? Le voudra-t-il vraiment? Le voudront-ils? Le voudrez-vous? Où est-il finalement ce président de transition qui tentera de recoller des morceaux avant d'autres jours meilleurs? Est-ce qu'il a les épaules pour ça, ce Joe Biden?
Oui, je pense que le truc, je pense que Biden est sous-estimé. Le mec est très centriste, mais aussi c'est un trop. Et il était un homme du Sénat. Il connaît en fait, franchement, en fait, tous les ombres derrière tous les politiciens à Washington. Ça c'est intéressant. Il peut négocier. La vérité, en fait, le Parti républicain a regagné le Sénat, donc ça, c'est un problème. Mm-hmm. Mais en fait, Biden est assez malin. Et pour moi, la chose la plus importante, notre image dans le monde entier va changer avec Biden. Mm-hmm. On a eu une image très différente pendant les 8 ans de Barack Obama. Maintenant, en fait, surtout parce que on a la vérité aussi, et c'est extraordinaire pour moi. Mm-hmm. Trump, il est comme Rasputin. C'était impossible d'assassiner Rasputin. Mm-hmm. La même chose, en fait, métaphoriquement, avec Trump, en fait. Il a eu des liaisons avec des stars de porno. Une journaliste lui a dit, il m'a violé, en fait. Franchement, la pandémie, en fait, a été une catastrophe.
Ouais. Et il est passé au
200 000 morts, ça c'est quatre fois.
Et il est passé au travers.
Au Vietnam. Et il continue. Et maintenant, l'élection, c'est si serré. C'est extraordinaire. Mais bienvenue aux États-Unis aujourd'hui.
Bah écoutez, merci quand même, parce qu'on reste quand même fasciné par ce qui peut s'y passer. On vous remercie beaucoup, Douglas Kennedy, de ce petit tour que vous faites chez nous, chez vous aussi d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous revenez quand vous voulez. Anne Desine, il y a un certain nombre de choses que je retiens de ce que nous dit Douglas Kennedy avec son accent américain et sa fibre et sa nationalité américaine. On se déteste désormais les uns les autres. Et s'il y a bien un enseignement là-dessus, s'il y a bien une chose sur lesquelles personne ne s'est trompé à l'issue de cette élection, parce qu'il y en a eu d'autres, des erreurs, c'est bien ça, ce pays est polarisé jusqu'à l'extrême. Et à 50-50.
Oui, ce n'est pas récent. Douglas Kennedy parlait de Nixon, mais il y a un autre grand responsable du fait que la politique est devenue un champ de bataille et non pas des adversaires, mais des ennemis, c'est Newt Gingrich. Qui avait été responsable de la reprise...
Speaker à la Chambre sous Clinton.
Voilà, exactement, qui a permis la reprise des Républicains en 1994. Et c'est depuis cet individu que les mœurs se sont dégradées et qu'il y a vraiment un fossé et qu'il est presque impossible de mener des politiques bipartisanes. À cet égard, vous demandiez à Kennedy si Biden avait les épaules. Ouais. Alors, peut-être il n'a pas les épaules, mais le malheureux va être dans une situation très compliquée, parce que sans le Sénat, le Sénat va le bloquer, parce que Mitch McConnell, c'est vraiment le malfaisant à la puissance 10. C'est lui qui a confisqué le poste de la Cour suprême en 2016, qui a fait passer Amy Coney Barrett en marche forcée 5 semaines. Ouais.
C'est lui qui avait dit à Barack Obama, non, vous ne pouvez pas nommer un juge de la Cour suprême pendant le processus électoral, et qui dit à Donald Trump, bien sûr, vous pouvez nommer un juge de la Cour suprême pendant le processus électoral.
Et nous étions 9 mois avant, mais là, il fallait attendre le verdict du peuple. Et là, 5 semaines avant, la malheureuse Ruth Bader Ginsburg n'était même pas en terre. Ils ont commencé le processus. Donc, essayer de faire du dit partisan. Et d'ailleurs, à cet égard, moi je me pose la question du fonctionnement des institutions. On va se trouver dans une situation de blocage qu'on appelle le gridlock, comme avec Obama. Mm-hmm. Rappelons-nous, dès que les Républicains ont repris le Sénat, Obama n'a plus rien pu faire, et en particulier, il n'a plus pu faire approuver des juges, les juges aux cours d'appel, aux juridictions de première instance. Donc ça, c'est un vrai problème.
Douglas Kennedy aussi disait que le système, de toute façon, était vicié. Là, on est dans votre jardin, Anne Desilles. Ça fait longtemps qu'on le dit. On l'a dit déjà à l'époque de Gore. On l'a redit, évidemment, quand Hillary Clinton avait gagné le vote populaire. Mais y a-t-il réellement une clé, là, derrière ? Est-ce que ce pays, malgré tout, est prêt à changer de système ? Et je vais même aller plus loin. Serait-il aussi démocratique s'il changeait de système réellement?
Alors, revenons en arrière, au moment où la Constitution a été adoptée, les pères fondateurs avaient compris que les articles de Confédération ne fonctionnaient pas parce qu'il n'y avait pas d'État fédéral, il n'y avait pas de président, il n'y avait pas de Cour suprême, etc. Ils essaient de mettre sur pied une nouvelle Constitution. Et dans ce cadre, il y a des batailles sans nom et les petits États se battent pour ne pas être noyés par les grands États. Mmh. C'est la raison pour laquelle le Congrès comporte deux chambres. La Chambre des représentants, c'est la population, c'est le peuple, et le Sénat, c'est le principe du fédéralisme. Chaque État a deux sénateurs. Et ce principe biaise le système entièrement. Et ceci ajouté au collège électoral, et le collège électoral il est biaisé parce que c'est nombre de représentants plus nombre de sénateurs, fait qu'actuellement nous avons ce qui est une tyrannie de la minorité. La minorité se maintient au pouvoir à cause des institutions qui n'ont pas été conçues pour le 21e siècle et pour la polarisation. Et en fait c'est un cercle, non pas vertueux mais vicieux, c'est-à-dire que à cause des institutions, à cause du mode de scrutin à un tour, etc., il est possible donc à cette minorité de se maintenir au pouvoir. Et là, c'est encore plus dangereux parce que il n'y aura pas le contre-pouvoir de la Cour suprême dans la mesure où elle est aux mains des conservateurs de façon absolue maintenant, puisqu'il y a 6 juges conservateurs contre 3.
Alors quand même, Desilles, il y a effectivement les coups de menton de Trump, on le voit bien dans ses tweets au réveil, on voit bien ce qu'il est en train de faire, d'essayer de faire, d'ailleurs c'est ce qu'on entendait dans le journal, essayer de reculer le plus possible, y compris aller savoir jusqu'au 14 décembre, ce qui empêcherait la réunion du collège électoral. Donc on voit évidemment ça, et puis il y a l'institution judiciaire quand même. Est-ce que nous sommes au stade aujourd'hui où il faut précisément qu'elle nous montre que elle est bien juge de paix et pas jugé parti, et y compris la Cour suprême? Et est-ce que vous sentez cette Cour suprême, au-delà même des appartenances de chacun, capable de remplir ce rôle?
Je dois admettre que j'ai des doutes. Et en particulier si nous n'en sommes pas là, parce que théoriquement les contentieux électoraux vont devant les juridictions étatiques. Donc on peut tout à fait imaginer que la Cour suprême reste à l'écart de cela. Mais si la Cour suprême se trouvait dans une situation où elle décide par 6 voix contre 3 en faveur de Trump, moi je vois le chaos dans le pays et des violences terribles de la gauche qui en a assez, du collège électoral, de la Cour suprême, de cette tyrannie de la minorité. Et je vois aussi une perte de légitimité presque ad vitam aeternam pour la Cour suprême. C'est-à-dire qu'en 2000, quand elle a rendu sa décision en faveur de Bush, elle était encore extrêmement admirée, révérée. Al Gore a fait preuve d'une grande élégance en concédant, alors que c'était loin d'être évident qu'il avait perdu. Et l'opinion a accepté cette décision. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce serait le cas.
On l'a vu quand même, cette Cour suprême. Alors, je vous accorde que c'était avant la nomination de la troisième juge. Oui. Mais on l'a vu prendre un certain nombre de décisions qui ont beaucoup agacé Donald Trump. On a vu le juge Roberts qui est censé être un conservateur et qui est devenu un peu le garant de ce qu'est cette institution, voter contre ce que Donald Trump aurait pu imaginer des choses à aspect très conservateur. Est-ce qu'il peut y avoir ce sursaut aussi? L'idée de dire nous sommes théoriquement au-dessus.
Non, je vais vous décevoir, Fabien.
Allez-y, je vous en prie.
Le président Roberts est un homme extrêmement brillant, ce qu'on appelle un institutionnaliste, et il a fait en sorte d'accorder des petites victoires, mais de façade, des petits arbres qui cachent la forêt, pour que juste avant les élections, la Cour suprême n'apparaisse pas partisane. Mais elle est totalement partisane. Et elle l'a montré, malheureusement, par des décisions qu'elle a prises pendant tout l'été, alors que c'était censé être les vacances judiciaires, où elle a accepté des recours en urgence, un petit peu l'équivalent de nos référés chez nous, les républicains qui disaient « mais regardez, il n'est pas question de prolonger le vote anticipé ». Les démocrates disaient « mais enfin quand même, il y a une pandémie », et les démocrates et les républicains disaient « non, non, risque de fraude ». Et presque systématiquement, bon, je suis en train de travailler là-dessus, c'est pas si simple, mais quand même, le message général est que la Cour suprême favorise les États qui prennent des mesures restrictives en s'abritant derrière les risques de fraude. Mmh. Alors que le risque traditionnel des juridictions fédérales, c'est justement de protéger les droits constitutionnels et de protéger le droit de vote. Et là, la Cour faillit terriblement à sa mission.
Une toute dernière chose avant qu'on aille rejoindre Benjamin Ely qui est à Washington, on se reparlera évidemment après. Pour rester sur ce sujet, vous l'avez dit, ce sont d'abord les juridictions étatiques qui peuvent être sollicitées si besoin. Est-ce que, moi, pardon, j'ai une espèce de confiance comme ça dans cette institution judiciaire, la leur comme la nôtre, est-ce qu'une juridiction étatique peut dire à Trump, attendez, vous pouvez toujours contester, vous pouvez toujours tweeter, vous pouvez toujours crier à la fraude, il n'y a rien qui montre une fraude avérée, donc non. Il n'y aura pas de recompte devant les tribunaux, il n'y aura pas de contestation devant les tribunaux.
Oui, alors, pour le moment, nous n'en sommes pas au recompte. En 2000, c'était des recomptes. Là, il s'agit simplement de savoir est-ce qu'on va compter ces bulletins ou ne pas les compter. Alors, dans les juridictions de première instance, il y a encore un certain nombre de juges nommés par des présidents démocrates. Et jusqu'ici, ils ont... par exemple, dans un autre sujet qui n'est pas le droit électoral, vous vous rappelez que des juridictions de première instance ont systématiquement retoqué le fameux Muslim ban. Bon, parce qu'il était en contradiction.
L'interdiction d'entrée des musulmans, voilà. C'était au tout début du mandat de Donald Trump.
Et donc là, s'il était demandé à ces juridictions de permettre le non-comptage de ces bulletins, alors que ça figure noir sur blanc dans le droit de l'État, elles ne le feront pas. Alors, il se trouve... Ça, c'est un petit risque que les cours d'appel fédérales, il y a maintenant 53 juges nommés par Trump, qui sont des juges très idéologiques. Je ne sais pas comment ces cours d'appel vont se prononcer. Il faut espérer que votre optimisme est justifié. Je n'en suis pas totalement sûre.
Vous restez avec nous, Ndezine, bien sûr. Je voudrais qu'on aille saluer Benjamin Ely, qui est avec nous. Bonsoir, Benjamin.
Bonsoir Fabienne.
Benjamin, vous avez passé la nuit électorale autour des supporters de Donald Trump. Vous l'avez suivi, Donald Trump, pendant toute cette fin de campagne. Et puis vous êtes à Washington ce matin, où vous êtes allé dans la rue. Difficile à avaler, j'imagine. On va le dire comme ça pour un certain nombre des gens que vous avez rencontrés. Ça a été un peu la douche, une nuit très frustrante, une matinée un peu gueule de bois. On va le dire comme ça, Benjamin.
Oui, c'est très bien résumé. Washington s'est réveillé, toujours barricadé, hein, les rues désertées, les panneaux en bois sur les vitrines, les barrières métalliques autour de la Maison Blanche. La nuit a été frustrante. C'est une élection sans président élu pour le moment. Et pour se vider la tête, Quentin a fait son jogging du matin. Il a 24 ans.
Ah oui, je suis stressé, avoue Quentin, mais ce n'est pas fini, donc il reste un peu d'espoir. Je suis vraiment inquiet, mais je suis optimiste jusqu'à ce que ce soit terminé. Je n'ai pas vu la déclaration de Donald Trump. C'est évidemment trop tôt pour se déclarer vainqueur, alors qu'il y a encore des États importants qui comptent les votes. Il crée encore plus de divisions.
Alors, sur le trottoir d'en face, j'ai croisé Brady. Elle a 39 ans, elle est en train de promener son chien. Elle me dit même que c'est un chien démocrate, comme quoi ça existe. Elle me conseille même de voir avec lui pour poser mes questions. Elle a de l'humour, Brady, et moi je parle au chien.
What do you think about Mr. Trump?
I hate him. Hein? I hate him.
C'est le chien qui parle.
Yeah. C'est un peu devenu fou.
C'est bouleversant ce qui se passe, mais c'est bien dans cette Amérique qu'on vit, l'Amérique qui est construite sur un système dont les failles apparaissent au grand jour. La seule option, selon Brady, est de surmonter ça, d'avancer parce que ça affecte le reste du monde.
Un peu plus loin encore, devant Lafayette Square, sur le Black Lives Matter Plaza, il y a Sarah, 18 ans. Le premier vote de sa vie, il était pour Joe Biden.
C'était dur, vraiment angoissant de regarder les résultats hier soir. C'est ignoble ce qu'a fait Donald Trump. Dire à ses partisans qu'il a gagné, qu'ils n'écoutent que lui, qu'ils ne s'informent pas, ils n'entendent que ce que déclare Donald Trump, c'est dangereux, confie Sarah. Et si ses partisans pensent qu'il a gagné alors que ce n'est pas vrai, ça peut être destructeur. Regardez ici à Washington, tout est barricadé, tout le monde se prépare au pire. Ça en dit beaucoup sur l'état de notre démocratie actuellement.
I think we just have to wait. I think it's going to be at least Saturday before we really know. Voilà, Sarah qui voudrait que les gens soient patients. Hein. Selon elle, il faudra attendre au moins samedi pour connaître un vainqueur dans cette élection qui, pour l'instant, n'a pas connu son dénouement.
Alors Benjamin, je le disais tout à l'heure, vous avez passé la semaine avec des supporters de Trump avant l'élection. Est-ce que vous avez vu, au fond, vous, quelque chose qui les rapproche par rapport à ceux que vous avez croisés ce matin? Ou est-ce que vous avez vraiment le sentiment, là pour le coup, de vivre in vivo la fracture américaine?
Je vais pas être très optimiste, je suis désolé. Pour moi, la fracture, elle est béante si le point de vue choisi est celui des meetings de Donald Trump. Et il en est en partie responsable, car c'est lui qui, sur scène, dans ses discours, dresse les uns contre les autres, qui a fait du conflit la source de sa rhétorique politique, les socialistes, les antifas, contre les vrais Américains qui aiment leur constitution, leurs armes et leur Dieu, et qui portent une casquette rouge, bien sûr. Donald Trump, pendant cette campagne et depuis 4 ans, n'a jamais cessé de désigner l'ennemi avec une certaine efficacité. Car son électorat, vous l'avez vu, s'est mobilisé, encore une fois, effrayé peut-être de l'apocalypse des émeutiers des communistes annoncés par Donald Trump si Joe Biden arrive au pouvoir. Un électorat fidèle et qui n'apparaissait pas dans ses proportions dans les sondages. Encore une fois, les fameux électeurs cachés, discrets, mais qui votent en masse le jour J. Juste pour en revenir à votre question, Fabienne, à la fracture américaine, on a vraiment le sentiment de deux mondes parallèles qui s'ignorent, qui s'affrontent, chacun dans sa réalité et dans sa perception des faits, sa perception du vrai. La crise sanitaire l'a démontré, la défiance des supporters de Donald Trump envers le masque, les discours scientifiques, quand de l'autre côté, eh bien, on crée à l'évidence, on pose 230 000 morts sur la table. Mais ces deux Amériques-là ne se comprennent pas.
Est-ce que vous pensez qu'on va enlever les barrières autour desquelles vous êtes là pour l'instant à Washington, ou au contraire on est en train de les consolider, Benjamin?
Vous me demandez si ça va être la guerre civile?
Non, c'est pas votre question. Pas à ce point-là. Vous avez entendu, je suis une optimiste, mais bon.
Oui. Bon, en tout cas, les électeurs, ils nous en ont beaucoup parlé de cette guerre civile au cours de nos reportages ces derniers mois. Guerre civile en cas d'élection difficile contestée, la menace des milices aussi qui investissent sans rougir l'espace public, comme à Portland récemment. Mais le scénario de cette élection qui fait tout déraper n'est pas encore celui qui se déroule en ce moment. Il faut rester prudent. Il est aussi possible que le dénouement soit plus clair, plus proche que prévu. Reste que certains pro-Trump, les plus radicaux, encore une fois, nous ont bien parlé de guerre civile, parfois même de guerre raciale. Et pour ce qui est des barrières, des barricades, elles sont là, oui, à Washington notamment, je l'ai dit, qui semblent s'être préparées au pire. Les barrières qui enveloppent la Maison Blanche, transformées en bunker, et là, le symbole est lourd.
Merci beaucoup, Benjamin Ely. Merci vraiment des barrières indésignes qui probablement peuvent rester jusqu'à l'investiture. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui se passera derrière, mais c'est vrai que quand j'entends tout ce qui a pu être dit hier et la manière dont l'Amérique se réveille, on se souvient bien qu'on a cru en 2016, effectivement, c'est un peu ce que disait Douglas Kennedy d'ailleurs, une sorte d'accident de parcours à un moment. Ce que nous dit 2020, quel que soit le résultat, c'est que Trump est bien là, il n'est pas arrivé en cassant un carreau, quoi.
Oui, il est bien là, et de toute façon, qu'il soit élu ou non, le Trumpisme est là pour un moment. Mais vous voyez, je vais mettre un petit peu d'optimisme.
Ah ben je vous remercie.
Si. Par exemple, moi je craignais beaucoup des violences dès 20h heure américaine. Ça ne s'est pas produit. Je craignais que le président Trump ne déclare une victoire, mais fermement, dès 20h. Alors, il a fait un discours un peu victime, etc., théorie du complot, on va me voler l'élection, mais ça a moins de poids que de dire « nous avons gagné » et d'inciter ses troupes à aller détruire les bulletins de vote. Donc, il y a ça. Et la troisième cause d'optimisme, c'est l'attitude des médias. Je me suis forcée à regarder un peu Fox News, et même sur Fox News, le bandeau disait que les États dont on est en train de parler, ces 6-7 États, sont « too close to call », donc eux-mêmes expliquent ce qu'on explique sur CNN, qu'il faut être patient, que c'est un fonctionnement normal, c'est-à-dire que c'était normal que Trump apparaisse comme ayant gagné au début quand on avait compté simplement les votes de la journée, puisque les trois États en question, c'est pas de chance, ceux qui font l'élection ont des règles qui prévoient qu'ils ne commencent à compter les bulletins par correspondance qu'après le jour de l'élection, c'est-à-dire maintenant. Et peut-être même encore un quatrième facteur d'optimisme, il y a beaucoup de volontaires, des étudiants, des écoliers qui sont venus pour s'occuper des bureaux de vote, pour aider au dépouillement, pour traiter les bulletins avant qu'ils ne soient comptabilisés, ce qui fait que, bien sûr, ça ne pourra pas être avant vendredi, puisque c'est la date, et puis on attend encore tous les bulletins des militaires, mais peut-être ça va se passer un peu moins mal que prévu.
Je vous le dis, parce que ça vient de tomber à l'instant, Anne Desine, l'équipe de campagne de Trump, annonce qu'elle va demander immédiatement un nouveau décompte des voix dans le Wisconsin, où le dépouillement se poursuit, puisque pour l'instant, on est à plus 700 voix, preuve qu'on
donc la Floride.
Pas... Floride 2000, on n'est pas sorti des ronces. Vous restez, parce que vous allez revenir, vous avez le droit d'aller prendre un café.
Ah bon,
vous revenez pour le téléphone sonne dans un instant. Amélie Perrier est là, et ce sera juste après Leila Malkala. Et le Capitalist Blues sur France Inter.
The stakes get higher. I've got the capitalist blues. When I give everything, I won't have much more to lose. I am swimming in an ocean of sharks. They are telling me how I'm gonna make.
Leila McCalla sur France Inter de Capitalist Blues.
Le 18-20.
Amélie Perrier, oui. Sous les radars. Amélie, il y avait d'autres matchs derrière le match du cours central Biden-Trump. La nuit dernière, ces matchs sur les cours annexes ont trouvé une conclusion, figurez-vous. Les Américains, comme toujours, ont voté pour plein d'autres questions.
Oui, en plus du scrutin présidentiel, des sénateurs, des gouverneurs élus hier, des milliers de référendums ont eu lieu également dans chaque État. Exemple frappant, en Californie, près de 380 référendums étaient mis au vote. À Berkeley, cette habitante, Cathy Utterson, a dû se pencher sur 25 questions. Ces derniers jours, elle a reçu de longues notices pour voter à distance. C'est un cas typique pour une seule mesure, explique-t-elle en nous montrant sa notice. Il y a la question qui apparaît sur le bulletin de vote. Et ensuite, le conseil municipal donne une analyse impartiale. Puis quelqu'un donne des arguments pour, puis quelqu'un d'autre donne des arguments contre, puis encore un en faveur, peut-être encore un contre. Et ensuite, il vous donne le texte complet qui fait 1, 2, 3, 4 pages. C'est juste pour une proposition. C'est pour ça que ça prend tellement de temps. Du temps, oui, pour voter, et beaucoup d'argent dépensé également pour ces propositions locales. Car au-delà d'une forme de démocratie très locale qui vise à équilibrer le pouvoir du Congrès, ces votes sont l'occasion de grandes manœuvres des lobbyistes. En Californie, au moins 750 millions de dollars ont été dépensés pour les campagnes en faveur de ces référendums. Car souvent, ce sont des grandes entreprises qui trouvent là l'occasion de défendre leurs intérêts, voire de contourner des lois votées par les élus.
Alors, l'exemple le plus marquant, Amélie, toujours en Californie, c'est la proposition 22.
Proposition formulée par Uber, le géant des VTC, par d'autres plateformes. Elles veulent préserver leur modèle avec des chauffeurs indépendants. On appelle ça la gig economy, l'économie à la tâche. Vous êtes payé seulement pour ce que vous travaillez. En janvier dernier, une loi est entrée en vigueur en Californie, obligeant les plateformes à embaucher des dizaines de milliers de conducteurs. Des contrats de travail qui impliquent des avantages sociaux, comme les assurances maladie et chômage, des congés payés, des heures supplémentaires rémunérées. Alors, pour tenter de contourner ça, Uber et Lyft ont sorti leur proposition 22, une sorte de compromis clairement en leur faveur quand même. Cette proposition 22, eh bien, elle prévoit que les dizaines de milliers de chauffeurs restent indépendants, mais qu'ils recevront des compensations, un revenu minimal garanti et puis une contribution à leur assurance santé en fonction du nombre d'heures travaillées. Écoutez Daniel, chauffeur Uber à Los Angeles lors d'une manifestation, c'était il y a 15 jours. Oui, je suis là parce que je suis un chauffeur VTC, dit-il. J'effectue près de 20 000 courses, donc je suis très familier avec l'exploitation que ces compagnies exercent. On a une faible rémunération, on n'a pas d'accès aux bénéfices. C'est tout simplement injuste. Et le pire, c'est qu'ils mettent ces pubs dans lesquelles ils essaient de représenter l'opinion des chauffeurs et disent qu'on soutient leur loi. C'est pas du tout le cas. On estime effectivement qu'Uber et les autres plateformes ont dépensé plus de 200 millions de dollars en campagne de pub pour convaincre les électeurs de Californie que leur plan était bon pour les chauffeurs, contre 20 millions dépensés par leurs opposants. Et ça a marché pour Uber. Les électeurs ont approuvé la proposition 22, oui à 58% selon un décompte provisoire publié par l'agence AP. Une victoire donc d'Uber qui ne signifie pas pour autant la fin du combat. Les syndicats ont l'intention de remettre en cause la constitutionnalité de la mesure. Un bras de fer judiciaire s'ouvre, comme souvent aux États-Unis.
Alors oui, comme vous dites, un autre sujet majeur et assez classique de ces référendums locaux, c'est la légalisation de la marijuana.
Et quatre nouveaux États ont profité de ce jour de vote hier pour assouplir leur législation sur les stupéfiants. L'Arizona et le New Jersey autorisent donc désormais le cannabis à titre récréatif. Le Montana et le Dakota du Sud sont sur le point de rejoindre la liste. Cela fait une quinzaine d'États en tout. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Oh, je voulais me faire plaisir.
Oui, voilà.
C'est un clin d'œil, hein.
Je vous vois bien rigoler sous votre masque.
Un grand amateur de marijuana. Appelez-le Dr. Green Thumb. Alors, pour revenir quand même au vote d'hier. En Oregon, on va encore plus loin. Dans cet état très progressiste du Nord-Ouest, les électeurs viennent de voter pour la décriminalisation de toute possession de stupéfiants. Et là, on parle plus seulement de marijuana, hein, comme Cypress Hill. On parle également de drogues dures, comme l'héroïne ou la cocaïne, dans la limite d'une faible quantité et pour un usage personnel. Dans un autre vote de l'Oregon, les électeurs ont aussi légalisé pour un usage thérapeutique la psilocybine, substance tirée de certains champignons hallucinogènes. Ces élections et ces Américains sont tout à fait stupéfiants.
Merci beaucoup, Amélie Perrier. Allez, faisons tourner les chroniqueurs.
Fabienne Saint-Ès, le 18-20.
Et c'est Jean-Marc Faure qui est là depuis Washington pour Le Monde d'après. Bonsoir Jean-Marc.
Mais bonsoir à tous.
Le décompte des voix se poursuit donc état par état, Jean-Marc, et semble donner un léger avantage à Joe Biden. On vient d'apprendre, vous l'avez appris j'imagine en même temps que nous, que l'équipe de campagne de Trump demandait un recompte dans l'état du Wisconsin. Mais au-delà de ce compte et décompte à suspense, vous voyez surtout une démocratie américaine en train de vaciller. L'état de droit tremble sur l'un de ses piliers, c'est votre Monde d'après.
Oui, on en parle régulièrement d'ailleurs ici. C'est, vous savez, la célèbre théorie des trois pouvoirs en démocratie, de la séparation de ces trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, ce concept développé par les philosophes des Lumières, Locke, Montesquieu. Aujourd'hui, en fait, aux États-Unis, l'un de ces trois pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif, le président, est au bord de basculer dans l'abus de pouvoir. Les commentaires de Donald Trump la nuit dernière, puis ce matin au réveil, témoignent d'un non-respect évident de la procédure électorale démocratique. Parce que la situation est finalement simple. En réalité, tous les votes n'ont pas été dépouillés. Donc, tant que ce n'est pas le cas, il n'y a pas de résultat, c'est simple comme bonjour. Mais Donald Trump ne l'entend pas de cette oreille. Il laisse entendre que les derniers bulletins en cours de dépouillement sont quasiment truqués pour favoriser son adversaire, alors qu'en fait ces bulletins sont simplement ceux de grands centres urbains où les démocrates sont mieux implantés. Le président américain, souvenez-vous, avait menacé par anticipation de procéder ainsi, mais la menace est une chose, passer à l'acte c'est autre chose, et c'est assez sidérant d'y assister ici. Donald Trump ne semble prêt à accepter le résultat que s'il lui est favorable. Le premier des pouvoirs, l'exécutif, est donc au bord d'un comportement presque insurrectionnel, une attitude qui est familière dans les régimes autoritaires non démocratique, sauf que nous sommes quand même aux États-Unis.
Alors donc, est-ce que ça peut renvoyer la balle au troisième pouvoir, le fameux pouvoir judiciaire ?
Oui, vous en parliez tout à l'heure avec votre invité, c'est l'autre menace brandie par Donald Trump. En effet, les recomptes, multiplier les recours judiciaires contre ces dépouillements tardifs et même saisir la Cour suprême, ce qu'il n'a d'ailleurs pas le droit de faire directement, le président américain semble faire le pari que ce troisième pouvoir, le judiciaire, va lui obéir en invalidant les votes qui lui sont défavorables dans les états clés. Il le pense parce que, vous en avez parlé, il a réussi à nommer en 4 ans 3 juges conservateurs à la Cour suprême et parce qu'au niveau des autres juridictions, par exemple les cours d'appel, il a nommé ou fait nommer un quart des juges aujourd'hui en activité, ce qui est énorme. L'une des hypothèses des prochaines heures, c'est de fait la multiplication des recours contentieux à l'initiative du Parti républicain. On se souvient de l'élection de 2000, la Floride, Bush-Gore. On peut se retrouver avec cette fois avec la même situation, mais décuplée. Et c'est là qu'on en arrive à la séparation des pouvoirs, cette clé de voûte de la démocratie. Le pouvoir judiciaire, s'il est saisi, va-t-il obéir au président ou agir en toute indépendance ? On veut croire à la seconde hypothèse, une affirmation d'indépendance, même si les dossiers arrivaient jusqu'à la Cour suprême, vous en parliez. L'instance judiciaire supérieure des États-Unis a manifesté sa liberté de penser à plusieurs reprises ces derniers mois en rendant des décisions qui ont déplu à Trump sur la communauté gay ou sur les Dreamers, ces migrants illégaux entrés aux États-Unis en étant mineurs. En tout état de cause, la Cour suprême est censée valider le résultat de la présidentielle d'ici un mois. Le pouvoir judiciaire américain peut donc se retrouver avec la démocratie entre les mains.
Et alors, cas d'école, si je puis dire, ici, ce troisième pouvoir, donc au niveau local ou au niveau national, décrète une victoire de Biden?
Eh bien, rien n'assure non plus dans cette hypothèse que le pouvoir exécutif, Trump, accepterait malgré tout une défaite, puisque on voit bien que le président est dans une logique de refus, de déni de l'échec. L'arbitrage final pourrait alors retomber mécaniquement sur deux autres corps constitués. Le premier, ce sont les partis politiques, les républicains, les démocrates. Autrement dit, le deuxième pouvoir, cette fois celui qui contrôle la Chambre, le législatif. Est-ce que le parti républicain, que Trump a quand même mis à sa botte, serait prêt à basculer dans une attitude presque insurrectionnelle? On a quand même du mal à le croire. Et en dernière instance, il y a un autre corps constitué, évidemment, c'est l'armée, très respectée, légitimiste, non insurrectionnelle aux États-Unis. Alors évidemment, là, on fait vraiment de la politique fiction. On n'en est pas du tout rendu au moment où l'armée aurait entre les mains les clés de la démocratie américaine, comme dans certains pays asiatiques ou africains. Mais le seul fait d'envisager cette question en dit long sur la situation, sur la fragilité de la démocratie dans les minutes, les heures, les jours qui viennent aux États-Unis.
Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après, merci beaucoup. Cette discussion, elle va se poursuivre dans le téléphone sonne. Merci encore. On reste ensemble donc pour démêler cette pelote américaine au 01 45 24 7000. Restez avec nous. On est heureux de partager votre soirée avec la nôtre.